Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. Les candidats présidents Théodore Ngoï, Jean-Claude Baende, Nkema Lilo, Martin Fayulu Madidier et Denis Mukwege confirment leur marche pacifique pour demain ici à Kinshasa. Et cela pour exiger la réorganisation des élections. En réaction, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, affirme que cette manifestation illégale est interdite. À Kisangani, chef-lieu de la Tchopo, le prix du carburant a pris l'ascenseur. À la pompe, un litre d'essence coûte actuellement 3 900 ou 4 000 francs congolais. Ce produit s'achète à 17 000 voire 20 000 francs congolais chez les revendeurs sous les barbes des autorités locales. Notre invitée, c'est la responsable de l'orphelinat Saint-Kizito de Muzipela dans la ville de Bounia en Ituri. La révérende sœur Immaculée Mandessi parle des mauvaises conditions dans lesquelles vivent une centaine d'enfants orphelins. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Jean-Claude Nsiala. Les candidats à la présidentielle, Théodore Ngoï, Jean-Claude Baende, Nkema Lilo, Martin Fayulu Madidi et Denis Mukwege confirment leur marche pacifique de demain mercredi à Kinshasa pour exiger la réorganisation des élections avec une nouvelle CENI. Ils l'ont dit lors d'un point de presse animé ce mardi à Kinshasa. En réaction à cette annonce, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur affirme que toutes les dispositions visibles et invisibles sont prises au niveau de la police et de l'armée pour maintenir l'ordre public. Peter Kazadi l'a dit lors du briefing du gouvernement central sur la situation générale dans le pays après les élections du 20 décembre. Selon lui, ces manifestations sont illégales. On l'écoute dans cet extrait choisi par Pélékipé Lamondo.
Les manifestations telles que projetées pour demain, lorsque vous voyez les motifs, c'est contester les élections. Alors que nous nous sommes engagés dans un jeu qui a des règles, nous devons respecter les règles jusqu'au bout. De sorte que s'il y a quelqu'un qui veut sortir des règles, il viole la loi et il trouvera les forces de défense et de la sécurité de notre pays devant lui. Je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas cette marche-là. Tout simplement parce que ça ne cadre pas avec les contextes, ça ne cadre pas avec les processus, ça viole les dispositions légales qui prévoient que la contestation des résultats s'est faite devant la Cour constitutionnelle ou les tribunaux compétents.
Sachez aussi qu'une dizaine des mouvements citoyens, dont Filimbi, des organisations de la société civile, ainsi que sept candidats président de la République, auxquels se joint Jean-Marc Kabunda Kabund, lance une mobilisation générale en RDC pour exiger l'annulation des résultats des élections. Ils le disent dans une déclaration commune faite ce mardi ici à Kinshasa. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a poursuivi hier à Kinshasa la publication des résultats partiels de la présidentielle et ceux de 60 circonscriptions électorales des provinces sur 82 circonscriptions plus la diaspora. Il y a au total 3 220 536 suffrages qui ont été exprimés. Les candidats Félix Tshisekedi Tshilombo arrivent en tête avec 78%, suivi de Moïse Katumbi Tshapwe, 17%. Martin Fayulu Madidi occupe quant à lui la troisième place avec 1,6% devant Radjabo Tebabo qui a eu 0,4% et Nkema Lilo 0,2%. Et puis la communauté économique des États de l'Afrique centrale suit avec attention l'évolution du processus électoral en RDC. Dans un communiqué publié hier à Kinshasa, cette organisation sous-régionale rappelle qu'elle a déployé récemment des missions d'évaluation et d'observation électorale. C'est ce que nous explique Blaise Chindani.
D'entrée de jeu, la CEAC commence par louer les comportements civiques des électeurs congolais qui se sont mobilisés en grand nombre pour accomplir leurs devoirs patriotiques. Maintenant que les décomptes des voix, la compilation et la publication des résultats se poursuivent, la commission de la CEAC appelle toutes les parties prenantes congolaises, en particulier les candidats, les partis politiques et leurs militants, à faire preuve de la plus grande retenue dans leurs actions. Elle les invite à rejeter les discours de la haine et des divisions, ainsi que la violence sous toutes ses formes et à faire leurs revendications et contestations de manière pacifique en recourant notamment aux voies légales. Cette commission saisit également cette occasion pour condamner toutes les rébellions armées et leurs exactions sur les populations civiles, y compris celles nouvellement créées, et les invite toutes à déposer les armes sans condition. La commission de la CIAC dit rester solidaire envers les autorités et le peuple congolais, ainsi que son attachement à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Enfin, la commission dit renouveler sa disponibilité à travailler avec le gouvernement, les acteurs congolais et la communauté internationale en vue d'une paix et d'une stabilité durable en RDC.
Ouvrons maintenant une page économique. Dans la Tchopo, les prix du carburant a pris l'ascenseur. À la pompe, un litre d'essence est vendu actuellement à 3 900 ou 4 000 francs congolais. Ce produit s'achète à 17 000 voire 20 000 francs congolais chez les revendeurs sous la barbe des autorités locales. Hier lundi, les taximen moto qui ont manifesté dans les communes de Kabondo, Tchopo et Mangobo ont été empêchés de descendre dans la ville. Reportage à Kisangani de Jacques Mokonkole.
Ces deux derniers jours, les taxis sont rares dans la ville. Ceux qui opèrent sont devenus tellement chers à tel point qu'on s'en méfie. Témoignage d'un étudiant.
Vraiment, les taxis sont devenus les plus chers. Quitter Campus jusqu'à Motoumé, 5 000 fois. Alors qu'avant, on payait 2 000 fois, 1 500. Imaginez la suite. J'ai préféré faire les pieds parce que le prix est énormément exorbitant.
Les taximen eux-mêmes n'en reviennent pas. Ils se disent confrontés à la difficulté d'approvisionnement dans les stations et sont obligés de recourir au Kadhafi. Sur la route, nous achetons du carburant à 17 500 à Kabondo et à Kisangani, au vent à 20 000, à Mangobo, à Matete, 20 000, voire 22 000. En tout cas, nous souffrons. Il n'y a pas moyen. La population attribue cette hausse de prix du carburant à la spéculation. Afin d'éviter cette mauvaise pratique, Dodombula Matata, un économiste, propose la vente du carburant aux seuls détenteurs d'engins motorisés.
On doit empêcher cette façon de faire vendre des carburants à des bidons à des fûts. Que tout le monde qui a un engin, il va à la station. Vous avez la moto, vous allez à la station, vous avez les véhicules, vous allez à la station, vous achetez selon votre moyen.
Pendant ce temps, un communiqué de l'autorité provinciale demande aux vendeurs du carburant de se conformer aux prises officielles sous peine des sanctions. Cependant, cet appel n'est pas suivi d'effet puisque la situation reste la même dans les stations. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Au Sud Kivu, pendant ces temps, les membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, section d'Uvira, ont suspendu pour deux jours leurs activités. Ils veulent ainsi honorer la mémoire de leur président intérimaire qui a été inhumé aujourd'hui et assisté à la levée du deuil ce mercredi. Espoir Sadiki Richa avait été assassiné dans la nuit du 15 au 16 décembre. Pour en parler, retrouvons Uvira Fiston Goma Mayabala.
Quelques boutiques et stations-services appartenant aux pétroliers et autres membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC Uvira ont fermé. La circulation routière ainsi que d'autres activités et commerces se déroulent normalement. Le président de la nouvelle société civile congolaise Uvira, Martin Mafikiri, dit qu'il n'y a pas ville morte telle qu'attendue. Les acteurs économiques dont le pétrolier et le grand commerçant ont suspendu leurs activités pour le besoin de la cause de l'enterrement de leur président. Cet acteur de la société civile déplore cependant que les enquêtes annoncées par les autorités locales pour dénicher les bourreaux soient encore au flou 10 jours après cet assassinat. Espoir Richard Sadiki a été tué par balle le 15 décembre vers 19h dans son véhicule. Il revenait d'une campagne électorale au sud de la ville lorsqu'il est tombé dans une embuscade tendue en plein centre-ville par des hommes armés non autrement identifiés. Ces derniers ont disparu dans la nature après leur forfait. L'autre civil tué à l'occasion était un conducteur de moto. Une personne a également a été blessé. La jeunesse d'Uvira, à travers son président du comité urbain Tchako Tchango Ibambe, a salué l'action de la FEC et rendu un vibrant hommage à celui qu'elle qualifie d'un grand esprit entrepreneur et visionnaire, Richard Sadik Espoir. D'Uvira Fiston Momayabala, Radio Kapi.
Et en Ituri, les groupes armés multiplient actuellement les exactions contre la population en cette fin d'année 2023 dans le territoire de Djougou. Selon des sources concordantes, 2 personnes ont été tuées depuis dimanche, des cas d'embuscades menées contre les véhicules et les motards suivis de pillages sont également signalés sur la route numéro 27. Les casques bleus de la MONUSCO et les FARDC ont intensifié les patrouilles pour étouffer les menaces des miliciens. À Bounia, la correspondance d'Isaac Remoyope.
Au moins 15 cas d'exaction des miliciens sont signalés depuis vendredi dernier dans plusieurs localités du territoire de Djougou et sur la route nationale numéro 27. Parmi les victimes, il y a deux personnes abattues samedi par la milice Zaïre dans le village d'Itendei, précise des sources de sécurité. La veille, un taximen a été dépouillé de sa moto, de l'argent et des téléphones à Lida. Cinq autres motards sont tombés dans une embuscade des assaillants de la Codeco samedi à Ladilé. Trois parmi eux ont réussi à s'échapper et deux autres sont portés disparus et leurs motos ravies par des assaillants, ajoutent les mêmes sources. Une moto a été retrouvée le lendemain pendant les patrouilles conjointes casque bleu de la MONUSCO et FRDC. Un autre groupe de miliciens a fait incursion le même samedi à Sandoukou et un enfant mineur a été blessé par balle. C'est grâce à l'intervention des forces de la MONUSCO et des FRDC que ces hommes armés se sont retranchés du millier et les dégâts sont minimisés dans d'autres localités. Une autre attaque de Codeco a été également déjouée lundi, jour des fêtes, par des tirs de sommation de la police à Djupakwese, à la limite entre les territoires de Djougou et de Mahagi. La population locale demande au gouvernement d'accélérer le processus de désarmement et démobilisation des DRCS. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kabi.
Revenons un instant au sud Kivu où la tension est montée d'un cran ce matin au centre de Boulambika, dans la chefferie de Buhavu, territoire de Calais. C'est suite au meurtre d'un motard par un milicien d'un groupe Wazalendo. En représailles, les habitants en colère ont brûlé vif le présumé criminel. À Bukavu, le récit de Rachel Kessemangou.
Selon la société civile de Kalehi, ce motard a été tué la nuit du 25 décembre aux environs de 23h au centre de Boulambika. Puis la population en colère a brûlé vif ce matin l'homme armé. Le cadre de concertation territoriale de la société civile de Kalehi demande à l'État congolais de remédier à la question de Wazalendo pour décharger la population du territoire. Delphin Birimbi, président de cette structure.
Et la population en colère venait de brûler vif cet élément Raïa Mutomboki, actuellement Wazalendo. Nous signalons ici que le défunt motard laisse derrière lui une veuve et des orphelins. Tout en présentant encore une fois nos condoléances à la famille du défunt motard, nous continuons à recommander à l'État congolais de trouver des solutions durables à la question de Wazalendo pour décharger la population de notre territoire de Calais.
Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir. Noël n'a pas été célébré hier par les déplacés des Kwamout, faute de moyens. Ils sollicitent l'assistance des bonnes volontés en cette période de basse conjoncture. Irène Boma les a rencontrés. Voici son reportage.
Alors que plusieurs autres habitants de la ville de Bandundu se sont mobilisés pour célébrer tant soit peu la fête des nativités lundi 25 décembre, des milliers de déplacés dont femmes et enfants qui avaient fui depuis août 2022 l'insécurité dans les territoires de Kwamout au Maïndombe ont passé ce jour de fête affamés faute de moyens. Nselemon Kangoline d'entre eux se plaint en ces termes. En cette période festive, nous devrions aussi festoyer comme tous les autres Congolais. Mais malheureusement, nous sommes dépourvus d'assistance humanitaire. Nous avons passé la fête de Noël sans même mettre quelque chose sous la dent. Ça fait très longtemps, nos enfants n'ont pas mangé la viande. Nous voulons aussi manger la viande cette fois-ci comme tous les autres. Bienvenue Kassia, ma père de famille, est aussi parmi ses déplacés. Il ne cache pas son regret face à cette situation.
Ça, c'est la deuxième année que nous passons la fête de Noël ici à Bandundu. Nous n'avons pas mangé. Si on était à Kwamout, vraiment, moi, si vous parlez, je suis un grand débrouillard à Kwamout. Moi-même, j'entre en forêt, j'attrape les viviers, les poissons. Mais voici ici à Bandundu, nous sommes considérés comme des clochards.
Ces déplacés ne comptent que sur l'assistance de personnes de bonne volonté pour la fête de Nouvel An. Irène Boma, Bandunduville. Radio Okapi.
À Bounia, chef-lieu de l'Ituri, une centaine d'enfants de l'orphelinat Saint-Kizito de Moudipela ont reçu hier lundi de certains parents de la zone une assistance en vivres et en non-vivres à l'occasion de Noël. La sœur responsable de l'orphelinat demande par conséquent à d'autres bonnes volontés de faire de même. Le récit de Martial Kizabiamongou.
C'est dans cette ambiance que ces enfants orphelins, dont l'âge varie entre 17 ans et moins d'une semaine, Gabriela, une petite fille de 4 jours, est la dernière orpheline amenée sur place après la mort de sa mère pendant l'accouchement. Grâce à l'assistance de certains habitants, tous ces enfants, sourire aux lèvres, ont partagé un repas de Noël avec d'autres enfants venus de l'extérieur. La sœur responsable de cette orphelinat, Immaculée Mandessi, explique l'essence de ces gestes.
Ça aide les enfants à voir aussi d'autres personnes qui passent parmi eux. Ça les encourage.
Malgré cette aide ponctuelle, cette structure éprouve d'énormes difficultés pour la prise en charge alimentaire et scolaire de ces vulnérables, dont le nombre ne cesse d'accroître chaque année, notamment à cause de la persistance de l'insécurité à Ituri. La sœur Immaculée Mandessi lance une alerte.
Pour les gens de bonne volonté, si vous avez des soja, venez nous amener. Et même des patates douces. En tout cas, ça sera toujours bienvenu pour les enfants.
Créée depuis 2004, l'orphelinat Saint-Quisito abrite une école qui encadre ses orphelins pour leur éducation. Mais la prise en charge des enseignants reste un grand défi pour son fonctionnement. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la reprise des travaux d'assainissement de la ville de Lubumbashi. Les autorités appellent la population à plus de civisme et à ne plus jamais jeter les immondices sur la voie publique. Les habitants de Lubumbashi salue cette initiative et souhaite que cette action soit pérennisée pour éviter les maladies des mains sales. À Lubumbashi, Jean Gandou Kabongo.
Depuis quelques jours, les agents commis à l'assainissement de la ville sont de nouveau visibles à différents endroits. Outils de travail à la main, ils enlèvent les ordures, balayent les longs des artères. Pendant ce temps, les camions de la mairie font le tour de la ville pour évacuer les immondices se trouvant sur des sites préalablement identifiés. Même les tractopelles sont mises à contribution. Pour le maire de Lubumbashi, finit la récréation. Plus question de jeter les ordures sur la voie publique. Martin Kazembechoula.
Fini la récréation, nous devons prendre de fortes mesures pour mettre de l'ordre surtout dans ce secteur-là. Tout celui qui va s'hasarder en train de jeter des immondices n'importe où, nous allons les décourager par de fortes amendes et nous allons également aussi renforcer l'équipe de la police d'hygiène, aussi l'équipe de l'assainissement. On ne jette pas les immondices n'importe où. Nous devons avoir cette politique-là de gestion des déchets.
Cette action de la mairie de Lubumbashi est saluée par de nombreux louchois qui en avaient marre de voir les immondices à chaque coin d'avenue dégageant les odeurs nauséabondes. Ces louchois demandent à l'autorité urbaine de faire en sorte que la ville soit totalement assainie et espèrent que cette fois-ci sera la bonne car très souvent, les travaux commencent avec pompe et s'estompent au bout de quelques jours ou semaines, abandonnant la ville dans un état d'insalubrité criante. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un ancien médecin rwandais a été condamné à Paris à 24 ans de prison ferme par un tribunal français pour sa participation au génocide. Sosten Munyemana, c'est de lui qu'il s'agit, a été accusé d'avoir organisé des tortures et de meurtres entre avril et juin 1994. Il a fallu 28 ans au procureur français pour que l'affaire soit jugée. Munyemana, qui était gynécologue à Boutaré, est accusé d'avoir rédigé une lettre encourageant les massacres des Tutsis qui, selon les procureurs français, a été utilisé pour justifier les futures attaques.
L'invité.
Notre invité, c'est la responsable de l'orphelinat Saint-Quisito de Mouzipela dans la ville de Bounia en Ituri. La révérende sœur Immaculée Mandessi parle des mauvaises conditions dans lesquelles vivent une centaine d'enfants orphelins. Il s'entretient avec Martial Kizabiamungu.
Ma sœur, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'état de lieu de votre orphelinat à ce jour?
Aujourd'hui, en général, nous sommes au nombre de 16. Il y a un bébé de 4 jours qui est ici. Et les autres sont de... Il y a 4 de 3 mois, ils sont là. Les autres sont au-delà de 6 mois. Oui, en général, nous avons 116 enfants pour le moment. Mais 116 enfants, ça, ce sont les enfants qui logent ici à l'intérieur. Mais nous avons encore 40. Que j'ai placé durant les mois octobre, novembre, tellement qu'ils étaient nombreux. Et je les placé dans des familles d'accueil. Ceux qui ont accepté de garder les enfants, jusqu'à ce qu'on trouvera au moins les traces de l'air. Alors ces enfants sont aussi au nombre de ces enfants qui logent ici. Puisque s'ils tombent malades, on doit les soigner.
On les soigne ici?
On les soigne ici, mais si ça dépasse ici, on part aussi dans d'autres hôpitaux. Nous avons le centre de santé qui a été construit justement pour soigner ces enfants. Ça y est ici, centre de santé Mouzimaria.
Dites-nous, ici au niveau de votre orphelinat, l'enfant de 4 jours est arrivé comment ici? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve à cet endroit?
Cet enfant a perdu sa maman à l'hôpital. La maman a bien accouché. Mais deuxième jour, elle a fait l'hémorragie qu'il a apportée. Et selon les dires, les papas étaient partis avant, même quand la maman était enceinte. Alors jusque-là, les papas, on ne sait pas, il est dans quelle forêt là où il cherche l'or. Il n'est même pas venu pour l'enterrement. C'est comme ça qu'on n'a pas vu où laisser la femme. On a transféré la femme ici. Comme nos sœurs travaillent à l'hôpital, on a transféré la femme ici.
Qui leur donne les noms, ces enfants qui arrivent ici?
Nous donnons les noms pour les enfants et on demande aussi à celui qui a amené l'AFA de donner un nom à l'AFA. Bon, s'il donne l'AFA, alors on tient à ce nom que celui qui l'a ramené ici a donné. Puisqu'il y a souvent des cas pareils qui se répètent, souvent. Il y avait même un prématuré, qu'on a jeté quelque part ici. Dans les cimetières. Dieu merci les enfants qui passaient. C'est ces enfants qui ont trouvé cet enfant. Oh, ils ont crié, il y avait une sœur qui passait, a pris l'enfant. Cet enfant n'avait même pas 1 kilo. Maintenant, c'était grand garçon. Il a 3 ans, on va le prendre d'ici là. Il y a une famille qui s'est décidée pour le prendre. Alors vraiment, que notre société puisse voir l'orphelinat comme si c'est leur travail aussi. Ils voient seulement social ailleurs, qu'ils puissent voir social ici.
Quelles sont les difficultés dont votre orphelinat est confronté pour la prise en charge de tous ces enfants vulnérables?
C'est pas facile, puisque normalement, si on a tout dans la main, il faut qu'au moins qu'on puisse donner la viande 3 fois au moins par semaine ou bien 2 fois. Avec les poissons, 2 fois ou 3 fois. Des fois, on manque ça. Et il faut changer les riz et d'autres choses. Des fois, on les manque. Alors, pour les gens de bonne volonté, si vous avez des soja, venez nous amener. Nous avons besoin de soja là. Si vous avez même des patates douces ou d'autres choses, en tout cas, ça sera toujours bienvenu pour les enfants. Puisque les nourrir, ce n'est pas facile.
Et par rapport à l'éducation de ces enfants, comment vous faites?
Vous voyez les bâtiments qui est ici, ces portes-là sont occupées par l'école maternelle et école primaire. Nous sommes vraiment accablés puisqu'il n'y a pas moyen de faire jouer les enfants puisque l'école aussi fonctionne toujours à l'orphelinat. On a demandé maintes fois que les gens viennent nous aider pour construire l'école, au moins pour faire sortir l'école ici, ça ne vient pas. Cette école a été commencée, je l'avais commencée en 2008, puisque le nombre des enfants que j'avais ici, c'était 220. Alors, encadrer les enfants, c'était difficile. C'est dans ce sens-là que j'avais commencé cette école par la crèche. Et après la crèche, et l'école maternelle. Alors, ça a grandi jusqu'à l'école primaire. Alors, nous avons besoin d'aide pour construire l'école primaire, pour faire sortir l'école primaire de l'orphelinat afin de laisser au moins la place pour les enfants.
Si, merci.
Si, merci aussi Radio Okapi, je vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, la responsable de l'orphelinat Saint-Kizito de Moudzipela dans la ville de Bounia en Ituri, la révérende sœur Immaculée Mandessi, interrogée à Bounia par Martial Kizabiamungu. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.